Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Sonia Lagarde, le maire de Nouméa. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation, surtout qu'il y a beaucoup de sujets à voir avec vous. On va commencer par l'état de la ville de Nouméa qui a quand même beaucoup souffert ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a eu les violences urbaines de décembre, on a eu l'occasion d'en parler, la dépression Lucas, le cyclone Niran et les fortes pluies des derniers week-ends. Est-ce que tous ces dégâts ont pu être chiffrés d'ores et déjà? Et comment s'organise la remise en état de la ville?
Alors écoutez, elle se remet en état parce que nos services sont très actifs. Sur les violences urbaines du mois de décembre, on a fait le bilan. Ça se chiffre à une quarantaine de millions. Il y avait beaucoup de dégâts sur les voiries, sur les horodateurs. Ça a été le cas en particulier sur les quais ferrés, où il y a eu pas moins de 165 baies vitrées qu'il a fallu remplacer. Voilà, donc ça, 40 millions pour les violences urbaines. Sur le bilan financier de Niran et de Lucas, grosso modo, entre les deux, ça se chiffre à 260 millions. Donc, c'est quand même pas une bagatelle. Beaucoup de ramassage de déchets verts, en particulier sur Lucas, qui a fait beaucoup de dégâts, sur Niran aussi. Et donc, comme ces deux phénomènes se sont passés à pratiquement un mois d'intervalle, ça a été extrêmement compliqué à gérer, parce qu'on n'avait pas tout ramassé encore de Lucas quand il a fallu ramasser pour Niran, voilà. Et puis il y a eu les éboulements aussi qui se chiffrent aujourd'hui à environ 45 millions.
Alors on va reparler de tout ça. Alors, la dépression Lucas, vous en parlez, elle a notamment attaqué Lanzvata. Alors on sait que c'était l'un des points forts de votre programme, la volonté de redessiner le trait de côte, notamment à Lanzvata. Ça veut dire qu'il aurait fallu le faire avant, ou est-ce que maintenant c'est trop tard? On en est où?
Non, c'est pas trop tard.
Parce que la plage est vraiment abîmée, là.
Elle est très abîmée. On a un phénomène d'érosion, on va commencer par là, qui est d'à peu près un mètre. C'est ce qu'on voit depuis une dizaine d'années, et en particulier sur une zone extrêmement sensible qui se situe en face de la promenade et qui va jusqu'à l'Arroyo. Et avec Lucas, qui a fait beaucoup plus de dégâts que Niran, on a eu sur cette portion des dégâts considérables, puisque on a enregistré pratiquement un recul d'un peu plus d'une dizaine de mètres. Donc vous voyez que c'est pas rien. On a bien fait finalement de ne pas commencer les travaux avant, mais de toute manière les études
n'étaient pas...
Parce
qu'ils auraient été perturbés.
Exactement. Donc on sait aujourd'hui, à la suite des dégâts, on a un peu plus de visibilité. On a fait faire des études par un cabinet local. On a fait une autre expertise par un cabinet métropolitain qui est habilité à agir dans le monde entier. Et donc ça vient conforter ce qu'on nous avait dit ici, mais ça nous a permis aussi de voir un peu plus clair. Ça veut dire qu'on sait exactement où il faudra aujourd'hui mettre le trait de côte. Il y a des sondages qui ont été faits et on s'aperçoit que vous avez sur Lanzvata à peu près un peu plus d'un mètre de sable, et en dessous le sable, il y a ce qu'on appelle le beach rock, c'est-à-dire quelque chose de très dur sur lequel on va pouvoir aujourd'hui se positionner pour venir faire le trait de côte, c'est-à-dire faire un mur de façon à limiter les dégâts dans l'avenir. Donc on a bien fait d'attendre, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment à nu, et ça nous a permis de faire les carottages nécessaires, d'envoyer toutes ces analyses en métropole, et donc on sait vers quoi on s'achemine. On va retrouver une plage à Lanzvata, parce que en repoussant le trait de côte vers la route, on va devoir enlever la terre qui a été mise il y a plusieurs années en arrière et qui a été plantée, mais avec les deux phénomènes climatiques, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés. Et donc c'est des travaux titanesques qui vont être programmés. Là, on va lancer les appels d'offres au mois de juillet-août, parce qu'on sait exactement où on va aujourd'hui. Les travaux vont commencer à partir de l'année prochaine. Ils vont durer jusqu'en 2023, mais on va les séquencer. On va commencer plutôt du côté du Fun Beach. Et puis, on arrivera progressivement jusqu'à La Rollo. Donc, il faut faire ce trait de côte. Et en même temps, on va élargir, bien évidemment, la promenade. Parce que aujourd'hui, elle n'est pas si confortable que ça. On n'a qu'une promenade qui fait 3 mètres de large. Donc, on va l'élargir. Et donc, ce sont des travaux qui représentent, on a le chiffrage aujourd'hui, environ 1,5 milliard. Donc, c'est titanesque. On va embêter les Nouméens, mais c'est la raison pour laquelle on va séquencer et on va y aller progressivement.
À part l'Anzota, il y a d'autres baies qui sont menacées aujourd'hui.
Oui, il y a d'autres baies, mais je voudrais juste terminer sur un point parce que il y a un grand nombre de Nouméens qui fréquentent l'Anzota ont vu là parce que vous savez avec le phénomène de Niran. Et de Lucas, on a eu des arbres qui ont été extrêmement endommagés, certains sont tombés, mais sur la portion qu'on appelle la portion est, qui est devant à hauteur du Nouvata, là, on a élagué 4 gros banians, et donc on essaie de les sauver aujourd'hui, on les a transplantés, ça a été une grosse opération, parce que rien qu'un banian, ça pèse 4 tonnes quand même, donc il faut une grue pour le soulever, le déraciner, le réenraciner, et donc on essaie de les sauver au maximum. On voit qu'ils reprennent un petit peu, et donc cette opération s'est terminée hier, mais en tout cas on essaie de sauver le plus d'arbres possible, et en particulier ces gros sujets. Donc, votre question, c'est oui. Est-ce qu'il y a d'autres baies ?
Est-ce qu'il va falloir redessiner ailleurs, quoi ?
Alors, on a eu des dégâts avec Niran sur la baie de Sainte-Marie. Sur une centaine de mètres, on a refait les enrochements. Mais après, on a la baie des Citrons qui reste extrêmement fragile aussi, en particulier quand il y a des coups d'ouest. Mais on surveille tout ça de très près. Et voilà, on fait le nécessaire parce que quand même, Nouméa, c'est une ville qui est entourée de baies, et en particulier l'Anzota. Et donc, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, et on doit sauvegarder cette image qu'on vend à l'extérieur, même si on n'a plus de touristes aujourd'hui, mais ils reviendront demain.
Vous parliez de Niran et des banians, c'est toute la végétation de Nouméa qui a été vraiment saccagée, notamment les nouveaux arbres que vous aviez plantés, par exemple l'avenue de la Victoire, etc. Il faut tout refaire ou ça en est où ?
Alors il faut tout refaire, on a sauvé un certain nombre de sujets, on avait planté des cerisiers bleus, donc on a réorganisé, mais là quand on passe on voit que ça y est les plantations ont repris, on a racheté d'autres arbres, qui sont des arbres endémiques, bien sûr. Et donc, là, ça y est, ça repart, mais c'était un crève-cœur de voir tout ça, parce que on a engagé quand même des frais, de l'investissement. On a financé toute cette partie de façon à ce qu'elle soit agréable. Et malheureusement, quand on a des phénomènes comme ça, qu'on peut pas prévoir, ben, on avait planté... quelques semaines avant, et puis malheureusement, voilà. Mais on s'est réorganisé, et ça y est, c'est reparti. Donc, vous savez, moi, je lâche rien. C'est pas parce qu'il y a un problème qu'on va pas le surmonter.
Et puis la nature reprend le dessus de toute
façon. Exactement.
Mais c'était pas fini, puisqu'il y a eu les fortes pluies de début avril, là, qui n'étaient pas non plus vraiment attendues, avec des dégâts, là, des éboulements, des glissements de terrain. Ça vous inquiète, cette instabilité, ou on a les moyens d'y faire face et c'est sous contrôle ?
Alors, on a fait le nécessaire parce qu'on a eu des éboulements sur le Wentoro, on a eu des éboulements sur la promenade de Pierre Vernier du côté de la Côte Blanche, on en a eu aussi sur la rue Jules Garnier face à la Bodega. Donc, on adoucit les pentes pour éviter qu'il y ait des gros blocs qui tombent et on pourrait avoir un drame. Sur des parties qui sont beaucoup plus difficiles, alors on fait du cloutage, on met des filets. Sur la baie des Citrons, il y a quelques mois de ça, on a sur le talus qu'on appelle le talus La Ville, avant d'arriver au MV Lange, où là on a fait un trottoir de façon à ce que ce soit confortable pour les gens qui marchent. Là on a mis du béton, mais il faut savoir que quand on met des bétons sur un talus, c'est excessif puisque ça coûte pas moins de 40 millions. Mais enfin, on a eu des experts qui se sont prononcés là il y a 2 jours ou 3 jours dans les nouvelles et qui ont jugé qu'il n'y avait pas de complications au-delà de celles qu'on a vues là pendant ces éboulements, mais on a eu des phénomènes de pluie tellement importants depuis Niran, 10 jours pratiquement sans discontinuer, que la terre était détrempée et que, ben évidemment, voilà, les couches supérieures sont tombées. Je suis pas plus inquiète que ça. D'autre part, c'est quelque chose qu'on regarde à la loupe. Nos services techniques le font et on a toujours une enveloppe budgétaire tous les ans dans le budget de façon à pallier à ces éboulements. Voilà, mais ça a été une situation totalement exceptionnelle.
Alors, parmi les autres dossiers d'actualité qui ont fait du bruit, c'est les attaques de requins dans les baies de Nouméa et le prélèvement des requins qui a été décidé conjointement avec la province sud. C'est la bonne solution de prélever les requins, comme on dit, enfin, pour de les tuer, quoi.
Alors, je ne dirais pas que c'est la bonne solution, je dis que c'est une solution. Mais vous savez, moi, il ne se passe pas un jour, je suis très inquiète, il ne se passe pas un jour sans que je tremble à l'idée d'avoir un coup de fil parce qu'il y aura eu un accident. On en a eu plusieurs ces derniers temps, et pas que sur Nouméa d'ailleurs, mais le phénomène a quand même pris de l'ampleur avec l'accident du petit Anthony, le véliplanchiste qu'on n'a pas retrouvé, ce pauvre monsieur qui s'est fait... qui s'est fait manger, on n'a pas pu le sauver il y a quelques semaines de ça. C'est des événements qui sont dramatiques. Et moi, j'étais volontaire pour que on aille. D'ailleurs, j'avais fait un courrier à la présidente de la province sud pour qu'on aille vers cette régulation. Il y en a 19 qui ont été faites depuis 2018. On assiste à un phénomène aujourd'hui avec une prolifération, il faut le dire, de requins dans nos baies. Ce sont des spécimens, on a bien vu sur les prélèvements qui ont été faits entre des bulldogs et des tigres, ce sont des espèces, enfin des spécimens qui mesurent entre 3,50 m et 4 m. Et donc, quand vous êtes à côté, ben c'est tant pis pour vous. Donc, ce problème de requin, il est extrêmement compliqué. Il y a les pour, il y a les contre. Il y a une prise de conscience, pas seulement des collectivités qui ne peuvent pas tout faire, mais aussi sans doute des plaisanciers ou aujourd'hui des gens qui sont sur l'eau et qui il faut arrêter de jeter tout et n'importe quoi. Et donc, moi j'ai estimé à un moment donné qu'il était important de faire ces régulations et ces prélèvements parce que j'avais des retours, des signalements comme quoi on en voyait beaucoup. Et donc, j'ai fait ce choix parce que en tant que maire, je dois aussi essayer de faire en sorte que le danger ne soit pas là, même si je sais que ce danger, il est inévitable parce qu'on ne mesure pas le nombre de spécimens qu'il peut y avoir sur l'eau, l'eau.
Parmi les solutions, on parle des filets anti-requins qui ont été expérimentés, notamment à La Réunion. Ça pourrait être une solution pour...
Alors
pour
moi, je suis pour. Je me suis exprimée il y a plusieurs mois de ça, quand les réunions ont été faites au niveau de la province. J'ai rencontré, je dois le dire, une certaine hostilité à ça, mais je persévère parce que il y a beaucoup de gens qui se baignent et en particulier sur la DB des Citrons le matin, il y a des gens qui font des longueurs et donc je sais que aujourd'hui il y a un caractère anxiogène inquiétant. Je partage ce caractère inquiétant et donc je pense que je vais tout faire pour essayer de mettre un filet à la baie des Citrons de façon à sécuriser au moins sur cette baie les nageurs parce qu'elle est plus petite, c'est plus facile, ça coûte très cher. On a mené des investigations auprès d'autres pays. Je dois avoir une réponse la semaine prochaine sur ce qu'on peut faire et sur le type, la solution. Il y a plusieurs solutions qui existent sur une solution particulière de filet. Donc, je prendrai sa décision. Mais j'ai entendu un de vos auditeurs ce matin qui disait qu'il fallait le faire. Je suis complètement en phase avec lui. Il faut savoir que ça coûte cher, que ça coûte 100 millions. Donc c'est pas juste une bagatelle, c'est pas trois cacahuètes, et que en termes de fonctionnement, ça va nous coûter environ 15 millions par an,
parce qu'il faut aller,
surveiller, etc. Mais je trouve la proposition de cet auditeur extrêmement intéressante ce matin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nagent, et que ces gens-là, ils ont envie de nager en sécurité, et que on peut peut-être développer quelque chose avec des nageurs, c'est-à-dire des gens qui vont se baigner tous les matins et qui à tour de rôle pour pourrait aussi les impliquer parce que c'est une participation citoyenne. Donc voilà, je réfléchis à tout ça, mais en tout cas moi j'ai une vraie volonté de poursuivre ce chantier et d'essayer de sécuriser au moins cette baie.
Alors déjà, dans tout ce que vous nous avez dit, ça fait déjà beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements.
Bien sûr.
Vous devez donc réparer tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Il y a des projets donc comme éventuellement ce filet anti-requin. Comment est-ce que vous pouvez continuer à côté de ça à mener les travaux que vous aviez lancés? Est-ce que vous arrivez à tout faire à la fois ou est-ce qu'il faut faire des priorités, faire des choix et abandonner certaines choses pour mieux faire les autres?
Alors oui, les priorités s'imposent à nous, surtout dans une séquence budgétaire. Et là, je parlerai de l'ensemble des communes avec des ressources qui sont de moins en moins importantes pour les communes. Donc, bien sûr que quand on vote un budget, on doit se fixer des priorités. Alors, oui, il y a beaucoup de chantiers dans la ville. La priorité, on l'a évoqué il y a quelques instants, ça reste quand même, avec un gros budget, celui de l'Anse-Vata, parce qu'on ne peut pas rester spectateur de ce qui se passe. Et donc, il faut retrouver une Anse-Vata digne de ce nom, je dirais. C'est de poursuivre aussi tous les travaux d'assainissement. C'est des choses dont on ne parle pas, mais qui sont essentielles dans la ville. Et on le voit aujourd'hui à l'Anse-Vata, les travaux avec la pose d'un émissaire, etc. Parce que on essaie d'assainir au maximum cette baie. C'est aussi de poursuivre en termes de choix budgétaires sur les priorités. C'est de continuer de poursuivre les travaux de la route du Port des Pointes. Hein, vous savez que c'est en trois phases. On attaque la deuxième phase, puis il faudra attaquer la troisième phase parce que, au-delà de la requalification de la route, il y a quand même l'assainissement en dessous qu'il fallait faire et permettre aux riverains de pouvoir se raccorder de façon à assainir encore plus la ville. C'est l'Anse-Vata, je vous en ai parlé. C'est une très belle opération que nous allons mener en termes de voies cyclables, de voies douces dans la ville et qui sera longitudinale, qui sera parallèle à la route des Ports des Pointes, qui va partir du Trianon pour rejoindre la route du Port des Pointes au niveau de Enghea, qui va passer sur la Royo, qu'on va devoir buser. Une vraie voie verte, parce qu'il faut s'en occuper aussi. Il y a de plus en plus de gens qui font du vélo dans cette ville et donc on peut pas rester en reste. La ville, elle est aujourd'hui fortement impliquée dans une transition écologique, même si ça se voit pas. On est comme tout le monde et c'est aussi quelque chose qui est prioritaire. On peut pas rester en dehors.
Et vous avez les moyens de faire ça. Vous disiez les communes ont des situations budgétaires un peu difficiles aujourd'hui. En plus, la Nouvelle-Calédonie n'a pas de budget. Enfin, il est en train d'être préparé, de pris en charge par l'État. Ça a des conséquences pour vous ?
Pour l'instant, ça n'a pas de conséquences parce que les dotations aux communes sont des dotations obligatoires. Donc c'est la Chambre territoriale des comptes qui a pris la main, qui présentera dans quelques semaines une proposition de budget au commissaire, qui lui-même la présentera au gouvernement. Mais aujourd'hui, on ne ressent pas véritablement dans les communes, puisque les dotations sont obligatoires et qu'elles tombent pratiquement tous les mois de la part de la Nouvelle-Calédonie. Donc aujourd'hui... Voilà, il n'y a pas de répercussions néfastes. Voilà. Et puis il y aura un budget qui sera bien voté dans quelques semaines.
Ouais. On l'espère. Mm. Concernant l'aménagement urbain, toujours, il y a un certain nombre de grands projets. Mais alors, il avait été annoncé à la fin de l'année dernière l'abandon du projet du carré Roland,
oui,
en plein centre-ville. Alors, pour quelles raisons, quelles conséquences? Est-ce qu'il y a un autre projet qui peut le remplacer?
Alors c'est dommage parce qu'on a perdu 6 ans. Moi, quand je suis arrivée en mairie en 2014, j'ai relancé ce projet parce que je n'avais pas envie de voir ce trou béant dans la ville. Donc tout est reparti et finalement les promoteurs ont été confrontés à quelques difficultés bancaires, à quelques difficultés financières. Le permis de construire arrivé au 31 décembre 2019, il touchait à sa fin. On n'avait plus aucune possibilité de pouvoir le proroger puisque ça avait déjà été fait. Et je voyais bien qu'au fur et à mesure du temps qui passait, que ces promoteurs étaient face à des difficultés. Mais néanmoins, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je ne baisse pas les bras. Donc le projet ne se fait pas. On est en train de travailler pour relancer un appel à projet sur cette partie, parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Les promoteurs ont un côté impératif qui est celui de remettre cette place, ou en tout cas ce carré, puisqu'on l'appelle comme ça, en état. Ça va être fait, s'ils ont commencé, ça va être fait dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. Et en attendant de relancer ce projet, je vais en faire un parking public, et puis on relance, et j'espère bien qu'on aura des promoteurs qui seront intéressés par ce projet.
Parce que c'est un coup dur aussi, on imagine, pour le BTP qui pour l'instant est pas bien et qui...
Bien sûr, alors vous me parliez de budget il y a un instant, j'ai oublié de vous dire quand même que dans le budget de 28 milliards, on a, malgré toutes les restrictions qu'on peut avoir et toutes les économies qu'on peut faire en termes de fonctionnement qui continue toujours en mairie, ça nous permet de pouvoir dégager une marge de manœuvre pour investir, et donc on a pas moins de 6 milliards pour cette année, ce qui est quand même intéressant pour le BTP et pour faire travailler les entreprises calédoniennes, bien évidemment.
Cet appel à projet pour le carré relance, ce serait comme le projet sortant, c'est à la fois de l'habitat, du commerce.
Oui, et surtout, alors des bureaux, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de bureaux qui sont libres aujourd'hui dans la ville. On est dans une situation économique qui n'est pas très propice à l'investissement, malheureusement. Mais je crois qu'il y a sûrement suffisamment de surface de locaux libres en ville sans aller en créer davantage. Mais moi, j'ai toujours été volontaire pour ramener de l'habitat en centre-ville. Plus on aura de l'habitat en centre-ville, et plus ça fera travailler le commerce. Donc oui, moi je suis dans cet appel à projet. Il y aura sans doute quelques commerces aussi, mais surtout de l'habitat.
Alors en revanche, on va parler des bonnes nouvelles. Le Quai Ferry, ça en est une. Ça, on parlait tout à l'heure des dégâts qu'il y avait eu en décembre. Mais maintenant, ça y est, il va rentrer progressivement en activité. Vous êtes optimiste, ça va marcher ?
Eh ben écoutez, il faut être optimiste, parce que si j'étais pas optimiste, je serais pas là devant vous. Voilà, moi j'ai toujours été motivé par quelque chose qui me poussait à aller en avant, et c'est ce que j'essaie de faire dans cette mairie. Donc oui, c'est un endroit particulièrement beau. Il y a quelques commerces, quelques enseignes qui ont commencé à ouvrir un petit peu en catimini. L'inauguration se fera à la mi-juin. Néanmoins, on a déjà, en dehors d'un bâtiment qui lui est déjà opérationnel depuis plusieurs mois, qui est un lieu où on pratique du sport. Sur les deux autres bâtiments, il y a aujourd'hui, on va dire, 70% d'enseignes qui ont déposé des permis d'aménagement, dont les baux sont signés. Alors il y en a quelques-unes qui ont déjà commencé à ouvrir, le plus gros sans doute vers la fin du mois, avec une inauguration prévue au mois de juin. Tout ne sera pas loué, il reste encore des locaux, mais il y a des touches aujourd'hui. Et je crois que les gens qui y vont essayer de manger quelque chose le midi et ou boire un verre le soir, le spot est tellement magnifique que je n'ai aucune crainte, et il fallait le faire, parce que vous savez, avant, quand on passait devant Quai Ferry, on ne voyait que l'arrière des voitures, puisque c'était un vaste parking. Aujourd'hui, il y a autre chose à voir, et quand on s'avance un peu dans le bâtiment, eh bien on découvre des terrasses et où on peut manger quelque chose face à la mer. C'est vraiment très joli. Bon, donc je ne suis pas inquiète.
Inauguration mi-juin, on a retenu. Parmi les problèmes récurrents à Nouméa, et vous le savez, c'est la sécurité. Est-ce que ça reste une de vos priorités aujourd'hui ? Est-ce que les choses vont mieux ? Ou est-ce que la délinquance reste vraiment un sujet d'inquiétude pour vous à Nouméa ?
Oui, je dirais qu'elle est préoccupante. Elle est préoccupante parce qu'on constate depuis le début d'année une aggravation dans les faits, dans les comportements, une aggravation de la violence. On a beaucoup de faits aujourd'hui où on voit que il y a plus seulement des rixes avec les poings, mais aussi avec des armes blanches, avec des couteaux. C'est des violences gratuites, crapuleuses, c'est des atteintes aux biens, des vols de voitures, des cambriolages. Vous savez, le confinement qu'on vient de subir n'a pas freiné les choses. Donc c'est un peu compliqué depuis le début de l'année. On est face aujourd'hui, alors en plus on a des rixes dans certains quartiers, on a des points chauds qui se développent comme Magenta Tour, comme Magenta Aérodrome qui ripent un petit peu sur les portes de fer. Et à cela viennent s'ajouter aujourd'hui des guerres ou des guérillas claniques, des règlements de comptes. On a vu ça récemment, qui empoisonne la vie de tout un quartier et qui empoisonne la vie des gens qui habitent là. Donc voilà, mais la police est très présente. Elle fait son travail.
La police nationale et la police municipale.
La police municipale est extrêmement présente, mais la police nationale aussi, parce que moi j'ai essayé de créer une vraie synergie entre ces deux polices. C'est pas ce que j'ai trouvé il y a quelques années de ça, mais aujourd'hui tout va bien et vraiment ils travaillent de concert. Mais on a toute une partie de notre jeunesse qui est vraiment à la dérive, la responsabilité parentale n'est pas toujours au rendez-vous, elle n'est même pas souvent au rendez-vous, et donc c'est relativement inquiétant. Donc on fait des efforts, c'est aussi une priorité budgétaire. On fait beaucoup d'efforts, et là je voudrais remercier la présidente de la province Sud, parce que elle mène un combat aussi contre l'insécurité dans cette ville, et je dois dire qu'elle aide beaucoup les communes. La commune de Nouméa a profité très largement de ces aides, et si elle n'était pas là, on ne pourrait pas faire tout seul. Nous allons sur les baies, qui posent un vrai souci tous les week-ends. Là, on va corser, on va rajouter de l'éclairage, et on va corser l'éclairage de la plage, qui sont des endroits de cache les week-ends. Donc là, on va éclairer fortement la plage. Il y a aussi la brigade canine qui va être renforcée. On a 4 chiens aujourd'hui. Dans quelques semaines, on va passer à 6 chiens parce que ce travail est extraordinaire.
C'est efficace, les chiens, les brigades canines, ça fait
formidable,
un travail
formidable. Et donc, on a été entendu sur ce plan-là. J'ai été entendu par le haut commissaire pour avoir des gardes mobiles sur les baies. Alors, c'est pas tous les week-ends. Mais en tout cas, il a été le seul haut commissaire à m'entendre, parce que depuis des années que je suis en mairie, j'ai essayé et je n'ai pas réussi. Celui-là m'a entendu. Je le remercie. Alors, c'est pas tous les week-ends, mais en tout cas, c'est assez dissuasif, et ça aide grandement tant la police nationale que la police municipale.
Alors, madame le maire, j'aimerais vous entendre aussi un petit peu sur l'actualité politique. Je sais que c'est quand même un domaine qui vous intéresse au plus haut point.
Oui, comme tout le monde.
La Nouvelle-Calédonie n'a toujours pas de gouvernement de plein exercice. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous êtes étonné de voir cette chute de gouvernement? On ne sait pas qui a voulu le faire tomber. Les indépendantistes incapables d'élire un président. C'est une situation que vous la regardez comment?
Ben écoutez, je pourrais me résumer à une phrase pour dire tout ça pour ça. Mais on peut aller un petit peu plus loin. Je pense que c'est une décision, tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que ça a été une décision qui a été prise hâtivement, et au moment où on se parle, rien n'a pu se concrétiser. En tout cas, ça met en exergue les désaccords profonds qui existent entre deux partis politiques, que sont l'UC et le PALIKA. Mais moi, je m'interroge en regardant ça, parce que puisqu'on parle politique, j'ai envie de dire que ces désaccords sont vraiment profonds. Ils sont aujourd'hui au vu et au su de tout le monde, puisqu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et je me dis que si on était dans une Calédonie qui serait indépendante demain, je ne sais pas comment ces gens-là seraient à même de pouvoir s'entendre pour diriger le pays. Et je crois qu'on doit tirer les leçons de ça, et ça doit nous amener à une vraie réflexion sur ce sujet qui me semble aujourd'hui majeur pour demain.
Alors voilà. ils ont quand même été d'accord sur une chose, c'est pour demander ensemble l'organisation du troisième référendum.
Oui.
Même s'ils n'ont pas l'air complètement d'accord sur la date d'organisation, vous en pensez quoi? Il faut aller à ce troisième référendum, et entre septembre 2021 et septembre 2022, à votre avis, il faut y aller tout de suite ou faut prendre un peu de temps?
Non, moi je pense qu'il faut pas y aller. Il faut pas y aller tout de suite. Je crois qu'il faut d'abord que les hommes et les femmes de ce pays arrivent à se parler. Le fait qu'ils aient demandé un troisième référendum, qui pour l'instant semble être un référendum couperet, c'est-à-dire pour le oui ou pour le non, ils n'ont rien avancé d'autre que demander la tenue d'un référendum qui est calé sur les deux premiers. Donc c'est pas un scoop pour personne. Ils l'ont fait, ils ont mis à exécution ce qu'ils avaient dit. Je pense pas que la bonne solution, mais c'est un avis tout à fait personnel, soit d'aller à ce référendum que d'autres avant nous avaient appelé référendum couperet. Je pense qu'il est temps de se parler. Il est temps de mettre autour de la table et de discuter de la tenue de ce référendum, mais surtout de savoir ce qu'on dit dans ce référendum. Est-ce que c'est vraiment un référendum couperet qui obligera les uns et les autres à se prononcer pour le oui ou pour le non? Ou est-ce qu'on peut avancer et essayer d'élaborer ou en tout cas de parler d'un référendum qui pourrait éventuellement reposer sur une autre solution qui est celle de construire un avenir ensemble et non pas d'aller à ce référendum couperet qui... Là encore, c'est un scoop pour personne, parce que tout le monde dit ça. Il y aura des vainqueurs et des vaincus. Alors, on sait ce que font les vainqueurs, mais on ne sait pas ce que feront les vaincus. Donc, je crois que voilà, ça nécessite vraiment qu'on se pose, qu'on parle. Et la tenue d'un référendum cette année, ça me semble inopportun. Je pense que si on prend le temps de la discussion, alors peut-être qu'on peut évoluer de la bonne manière, et peut-être que ce référendum ne pourrait se tenir qu'en 2022. En tout cas, c'est l'État qui décidera. Voilà. Et je ne pense pas que ce soit opportun de le faire cette année.
Qu'est-ce que vous pensez, en revanche, c'est le bon moment pour réunir à Paris les responsables politiques calédoniens, comme l'a fait le Premier ministre, qui a invité ce qu'on appelle le groupe Le Prédour à partir du 25 mai au 3 juin pour discuter de l'avenir institutionnel. Vous pensez que ça peut être productif?
Bien sûr. Mais on ne doit pas refuser la main tendue d'un partenaire qui est l'État. L'État essaie de parler avec tout le monde. Il me semble que le ministre de l'Outre-mer n'a jamais rompu les quelconques discussions, même si ce n'est pas sur la place publique, je sais qu'ils se parlent. Et donc, voilà, si tout ce qui peut favoriser le dialogue doit être bienvenu. Et je pense qu'il est important, effectivement, alors un format Le Prédour tel qu'il était, un format Le Prédour élargi. En tout cas, on ne peut pas refuser les voies du dialogue. Voilà. Ne pas y aller, ce serait irresponsable.
Vous souhaitez que les maires, éventuellement, soient associés à un moment ou à un autre de ces discussions sur l'avenir?
Oui, mais c'est une volonté des maires, parce qu'on est des acteurs nous sommes des acteurs de proximité. Et je crois que, en ce qui concerne l'avenir institutionnel, je crois que les communes et les maires ont toute leur place dans les discussions.
Vous attendez quelque chose du document sur les conséquences du oui ou du non que promet l'État, qu'on attend quand même depuis 2018? Jusque-là, il y avait une ébauche. Vous pensez qu'il peut en sortir quelque chose, que ça peut amener quelque chose pour la réflexion des Calédoniens?
Bien sûr que c'est important, parce que vous savez, le dernier référendum, je crois que ce référendum... Alors, on en revient à votre question de tout à l'heure. Sur un référendum, je vous ai répondu un référendum couperet pour le oui, pour le non. Si tel était le cas, alors ce document, mais même si ce n'était pas le cas, ce document, il est le bienvenu. Parce que ce référendum, moi je considère que d'abord, ce sera un référendum, ce sera le troisième, et on arrive à la fin d'un accord, et il n'y en aura pas plus. Et donc c'est un moment de vérité. Il faut qu'on arrête de mentir aux gens. Quand on voit le deuxième référendum, ou dans les campagnes électorales qui ont été menées par les indépendantistes, où on a tenté de faire croire à des gens qui ont gobé ce qu'on leur disait, en leur disant « mais vous savez, l'indépendance, la France, elle sera toujours là ». Il faut dire la vérité, il faut que les gens soient pleinement informés des conséquences et des avantages du oui, et les conséquences et les avantages du non. Si vous voulez mon sentiment, Le non a des conséquences. Le oui n'a que des le non a des avantages et le oui n'a que des conséquences. Voilà. Mais ça, il faut le dire. Et on n'a pas le droit de mentir dans une élection aussi cruciale que celle-là. Il faut tout mettre à plat. Et il faut que chacun soit parfaitement informé pour qu'on s'en ait conscience. Il aille voter, soit pour le oui, soit pour le non. Voilà. Et qui sache de quoi demain sera fait, s'il était tenté de voter non, et s'il était tenté de voter oui.
On va suivre tout ça dans les prochains mois. Encore deux petites questions d'actualité, même si le temps passe. On a beaucoup parlé de nickel et beaucoup parlé de l'usine du Sud ces derniers temps. Il y a eu un accord et un rachat finalement de l'usine du Sud, qui s'appelle maintenant Prony Resources. Ça vous paraît un bon accord? Vous avez été satisfaite que ça se termine comme ça?
Oui, c'est un bon accord parce que on est parti de loin. Il y avait les exactions, rappelez-vous. Voilà, autant sur l'usine, mais la ville de Nouméa, les pauvres gens qui habitent le Mont d'Or et qui ne pouvaient pas prendre leur voiture. Enfin bon, on a une certaine propension dans ce pays quand même à aller jusqu'au bout des choses, à faire que ce soit des situations complètement dramatiques pour qu'on arrive à trouver les solutions. J'ai l'impression que c'est dans nos gènes. Et donc, moi je salue l'accord qui a été trouvé, l'investissement de Sonia Backès à mettre autour de la table tous ceux qui étaient concernés par ce sujet, et avoir réussi, après des jours et des nuits, je dois dire, à trouver cet accord. Et donc moi je pense que c'est plutôt positif pour l'avenir, parce que vous voyez, quand c'est la pagaille, quand on est vraiment acculé, on arrive à se mettre autour d'une table. Alors il faut pas en arriver là, mais ils sont arrivés avec la volonté d'y arriver. Et donc moi je suis une optimiste, et je pense que sans attendre que ce soit la pagaille, eh bien mettons-nous autour d'une table, et puis prenons exemple sur ce qui s'est fait. Alors on peut toujours dire que c'est un bon accord, un mauvais accord. Ceux qui disent que c'est un mauvais accord, ils n'étaient pas autour de la table, mais ils sont sans doute déçus de ne pas l'avoir fait eux-mêmes. Et donc voilà, mais tout ça est totalement stérile. Le tout, c'est qu'on y soit arrivé et que ça satisfasse le plus grand nombre.
Et que l'usine ait pu reprendre son activité.
C'est ça. Et on a privilégié les emplois, on les a sécurisés, et ça c'est bien.
Un dernier mot sur la crise sanitaire, on est obligé d'en parler parce qu'elle est partout. Est-ce que la Calédonie va pouvoir rester enfermée sous cloche? Elle est Covid-free, mais l'espace aérien est fermé. Et d'un autre côté, est-ce qu'il faut vacciner ou pas vacciner? Vous-même, vous êtes vacciné, hein?
Oui. Oui, et je conseillerais à tout le monde de se faire vacciner, parce que c'est la seule porte de sortie qui est devant nous aujourd'hui. Pourquoi le monde entier essaie de vacciner le plus possible, et donc on n'a pas d'autres solutions. Et d'autre part, ici on a quand même été les enfants gâtés. On s'est plaint pendant un mois, tout le monde en avait ras-le-bol de porter un masque, mais quand on voit la France aujourd'hui ou d'autres pays, et quand on sait que ça dure depuis un an, on est quand même des enfants gâtés à se plaindre, parce que moi je me mets à leur place, et je pense qu'ils ont toutes les raisons au bout d'un an de se plaindre, et beaucoup plus que nous. Mais on ne peut pas rester enfermé comme ça, isolé du monde très longtemps, parce que ça pose des problèmes économiques énormes. On devrait tous collectivement remercier l'État des efforts qui ont été faits. Je rappelle quand même que 10 milliards de nos francs viennent d'être donnés à la Nouvelle-Calédonie pour la crise Covid. On a vu le directeur d'Arcalin il y a deux jours à la télévision qui disait qu'il était en manque de 7 milliards et que la compagnie était vraiment dans une situation catastrophique. Donc on doit se poser légitimement la question. Est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens de se payer cet isolement? La réponse est non, évidemment. Et donc, il faudra ouvrir petit à petit, parce que sinon, ce sera dramatique et on aura toujours la politique de la main tendue vers l'État. L'État, aujourd'hui, nous donne des vaccins gratuitement. Et puis, enfin, il faut aussi regarder les progrès de la médecine. La médecine, en si peu de temps, a réussi à trouver des vaccins. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a des combats qui, me semblent, des combats de l'inutile, pas très raisonnés, alors on est pour ou on est contre, ça appartient à chacun, mais aujourd'hui le vaccin n'est pas obligatoire. Et donc, on est en train de faire des faux procès. Mais on ne peut pas rester enfermé comme ça, ad vitam aeternam, c'est pas possible. Il faudra bien qu'à un moment donné, sur le plan économique, on puisse réouvrir. Et puis on peut pas, non, franchement. Donc, je conseille à tout le monde de se faire vacciner. Je suis toujours là devant vous, en train de vous parler. Voilà, vous savez, quand on a fait des progrès de la médecine, ça me fait toujours penser, quand il y a eu la polio, on a des enfants qui ont été handicapés à vie, on a des adultes qui ont été handicapés à vie, et si on n'avait pas rendu ce vaccin obligatoire, voilà, alors on n'est pas dans la polio, aujourd'hui on est dans la Covid. Mais enfin, si on doit éviter des drames, éviter des morts, etc., on ne pourra s'en sortir qu'avec le vaccin. Donc, voilà, il faut en profiter et il faut le faire. Donc je ne saurais trop conseiller à tout le monde de le faire. Moi, j'étais très volontaire dès le départ, j'ai eu la chance d'être vaccinée, et donc tout va bien.
Et vous allez pouvoir peut-être voyager, donc c'est fantastique.
Bah écoutez, j'espère qu'un jour je pourrai, comme beaucoup d'autres, reprendre un avion, mais voilà. Donc on doit vraiment réfléchir et on doit avoir cet esprit d'ouverture, il me semble.
Madame le maire, Sonia Lagarde, merci d'accepter notre invitation.
Merci à vous.